Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Allons-nous manquer d'eau en Bretagne ? La longue sécheresse de l'été 2022 nous pose clairement la question et les impacts du réchauffement climatique sur la biodiversité de nos ruisseaux, rivières et fleuves sont déjà observables. Nous en parlerons dans un instant avec Hélène Anctil, ingénieure à l'appui aux acteurs et mobilisations territoriales à la direction régionale Bretagne de l'Office français de la biodiversité. Mais avant, direction le Morbihan, l'Arrie à Detel et ses affluents pour suivre un agent de l'OFB dans l'observation de ces cours d'eau. C'était en septembre 2022 et la sécheresse était encore bien présente. Écoutez.
Je m'appelle Pierre Manzi, je travaille à l'Office français de la biodiversité dans le service départemental du Morbihan depuis une bonne dizaine d'années. Et aujourd'hui, on va travailler sur le protocole qu'on appelle ONDE, hein, l'Observatoire national des écoulements. L'idée étant, en période de sécheresse, en tout cas en été, de vérifier sur les têtes de bassin versant, c'est-à-dire les petits ruisseaux sur lesquels il n'y a pas d'ouvrage de contrôle et de mesure de débit, de voir un petit peu comment ils répondent au manque d'eau, au manque hydrique. Donc là, on se dirige vers un de ces points ondes, faire un point spécifique qui est localisé sur la partie sud du département, pas loin de l'Arrie à Detel. Donc là, on arrive sur site et on va constater ensemble qu'il n'y a pas d'eau. Donc là, le ruisseau est complètement à sec. Hein. Et là, aujourd'hui, on peut le constater, là, quand on regarde sur l'amont, sur plus de 25-30 mètres, il n'y a pas une goutte d'eau. Quoi.
Là, on est début septembre. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez constater généralement à la même époque ou est-ce que c'est exceptionnel ?
Alors, en septembre, sur ce cours d'eau particulier, c'est assez récurrent. C'est-à-dire que les années sèches, il a tendance à s'assécher. Par contre, cette année, il s'est asséché très rapidement, puisque dès la fin juin, début juillet, on avait déjà des assecs. Et ce qui est très particulier cette année, c'est qu'on a des cours d'eau qui sont plutôt résistants au manque hydrique, hein, aux faibles précipitations, et qui ont été en assec cette année. On a, là, au mois d'août, quasiment la moitié de nos stations qui sont en assec, et une partie importante en rupture d'écoulement. Donc là, on est dans le lit du cours d'eau. On est juste en aval du passage routier avec les buses. Donc là, ici en aval, on a moins de feuilles mortes. On voit vraiment le lit du cours d'eau hein, qui est présent avec vraiment des pierres, des blocs et une granulométrie sableuse qui définit la présence réellement d'un cours d'eau et pas d'un fossé. Ici, il est même plus large. Hein, il doit faire 7 mètres de large. Et là, si on retourne ces pierres ou ce sable, on devrait trouver de la vie. C'est-à-dire que normalement, dans un ruisseau, on doit retrouver sur les cailloux des larves d'insectes, hein, puisqu'il y a une majeure partie des insectes qui font une partie importante de leur vie dans l'eau. Donc il y a différents stades larvaires, il y a des évolutions avant une éclosion qui est plutôt aérienne. Et là, on devrait trouver des simulidés, des gamards, des trichoptères ou d'autres espèces. Et ici, on voit, là, on retrouve justement un gamard, hein, ici, donc qui montre bien qu'on est sur un milieu vivant, parce qu'on est proche de la petite flaque d'eau, et qu'en retournant, on a encore un tout petit peu d'eau. Par contre, sur le caillou, on trouve quasiment rien. On a quand même un fourreau de trichoptère. Donc le trichoptère, c'est un insecte particulier, parce qu'il va venir avec soit des débris végétaux ou des débris minéraux, faire un fourreau, et il vit dedans. Donc là, à l'intérieur de ce fourreau-là, on a une larve d'insecte qui après, à stade adulte, sera aérienne. Mais sur le caillou, on devrait en trouver plusieurs. Et là, on est vraiment sur la partie où il reste un petit peu d'eau. Si on va un petit peu plus haut, où on n'a plus du tout d'eau, on ne va plus trouver de vie, quoi.
Ok, et puis là, on n'entend vraiment aucun débit. On a l'impression d'un calme complet.
Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. C'est le bruit caractéristique d'une rivière ou d'une petite chute d'eau ou d'un radier. Non, on a complètement perdu là. On est, c'est sûr que c'est triste.
Il n'y a que la sécheresse de cet été qui explique cela, ou est-ce qu'il y a aussi les ponctions d'eau qui n'auraient pas été forcément utiles, ou qu'on aurait pu limiter, qui explique aussi les choses?
C'est ce qu'on disait, c'est plurifactoriel, on n'a pas réellement toutes les causes. Ce qui est sûr, c'est que le fonctionnement actuel de notre consommation en eau, elle est amenée à évoluer. Elle est amenée à évoluer parce qu'en Bretagne, on n'a pas de nappe phréatique importante. Donc l'eau potable, c'est de l'eau de ruissellement et directement des cours d'eau. On a quelques retenues, quelques grosses retenues, mais le problème, c'est qu'il faut alimenter l'ensemble de la Bretagne, voire même d'autres départements. Et les tuyaux qui permettent le passage d'eau entre ces différentes zones, ils sont limités. On ne peut pas, à un moment donné, on arrive à une quantité, à un débit maximum, et on ne peut pas renvoyer plus. Et clairement, il va falloir travailler sur une économie d'eau. On travaille beaucoup avec différents acteurs sur la restauration des cours d'eau. On en parlait tout à l'heure, mais un cours d'eau qui est incisé, qui est tout droit, l'eau file dedans et ne reste pas présente. Donc il y a un gros travail, il y a un gros financement européen, mais aussi français, sur la restauration des cours d'eau et des zones humides, pour permettre de restaurer cet effet éponge qui a plusieurs effets, mais surtout de celui de conserver l'eau, et notamment en été.
Donc Pierre, là on vient de quitter le petit ruisseau en été qui en a sec, ce que vous appeliez le point onde, mesure point onde. Où est-ce qu'on se dirige désormais ?
Et ben là, on se dirige sur un autre affluent de la Ria, sur lequel il y a un plan d'eau qui s'appelle l'étang du Sac. Et on parlait tout à l'heure d'eau stagnante, donc là on est vraiment sur un linéaire de cours d'eau qui est barré par un ancien moulin. Donc on va avoir une retenue d'eau, on va avoir derrière directement accès à la partie maritime, hein, au DPM. Donc là, on n'est pas du tout sur le réseau onde, on est sur un plan d'eau assez particulier. On voit qu'on retrouve en regardant un petit peu les méandres en haut. Donc on est sur une retenue d'eau qu'on va pouvoir voir de l'autre côté, là, dans notre dos. Et donc, qui est maintenue par des vannages, qui sont des vannages d'un ancien moulin qui utilisait l'énergie de l'eau pour moudre du grain. Il y en a beaucoup en Bretagne. Hein. Et donc, c'est une retenue d'eau artificielle sur un cours d'eau. Là, on voit que le niveau d'eau, alors il est faible, hein, puisqu'on voit sur les berges qu'il manque de l'eau. Par contre, il y en a quand même encore. C'est des milieux qui réagissent plus vite aux pluies récentes, parce que c'est un cours d'eau qui est très court, enfin en tout cas un plan d'eau qui est très court, et donc ça se remplit assez rapidement. Et on a donc effectivement l'effet barrage qui fait que l'eau se retient. Donc c'est un plan d'eau qui est particulier, parce que au-delà d'un certain coefficient de marée, l'eau de mer va remonter. Et donc on est sur une eau qui est saumâtre. Je vous amène ici aujourd'hui parce que justement, voilà, c'est ce qu'on parlait, c'est ces eaux stagnantes. En été, quand il fait très chaud et qu'il y a peu d'eau, la problématique, c'est que l'eau s'assèche. Hein. On peut aller jusqu'à 2 litres d'eau par seconde par hectare d'évaporation, ce qui est important. Et s'il n'y a vraiment plus assez d'eau, avec un développement d'algues qui est favorisé parce que l'eau se réchauffe, on peut retomber là sur ce qu'on appelle de l'eutrophisation, avec un risque de mortalité important.
Là, vous l'avez constaté là, cet été, clairement, dans les observations, dans les tournées que vous faisiez.
Alors cet été, ce plan d'eau-là, il a tenu, on n'a pas eu d'accident ou d'incident, mais c'est un plan d'eau où c'est déjà arrivé plusieurs fois. Alors c'est lié à plusieurs facteurs. Hein. Là, il n'y a pas eu de mortalité cette année. On a eu d'autres plans d'eau cette année où on a eu des mortalités massives de poissons. Et là, on arrive à plusieurs tonnes de poissons qui peuvent mourir en une nuit. Ce qui est assez impressionnant. Et donc c'est pas une mortalité chimique, c'est pas dû à un polluant, c'est vraiment dû au fonctionnement, pas naturel, mais dégradé, d'un plan d'eau avec le manque d'oxygène. Sur ces plans d'eau-là qui sont proches de la mer, on travaille beaucoup parce que c'est des plans d'eau sur lesquels on va avoir des espèces migratrices. On a un gros travail au niveau de la Bretagne sur l'anguille, parce qu'on est vraiment... la France a vraiment une valeur importante au niveau patrimonial dans sa ressource en anguilles, mais aussi en saumon. Ici, on n'est pas sur un cours d'eau à saumon parce que le linéaire est très, très court. Par contre, on peut avoir une biomasse d'anguilles très importante. L'anguille peut faire l'ensemble de son cycle de vie en estuaire sur ces petits cours d'eau avant de repartir en mer pour se reproduire. Là, on arrive sur la partie aval de l'étang. Et on peut voir qu'il y a des manœuvres, hein, il y a des vannages, il y a différents passages d'eau. Et donc si on regarde de nouveau dans notre dos, ben on retrouve l'eau qui coule, ce dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, on est vraiment soumis à la marée. Donc là, on est marée basse, on voit que l'eau coule, et on retrouve les vasières caractéristiques de ces milieux, avec une aigrette là, qui est en train de se nourrir. Et là, on va arriver sur des coefs assez forts, et ici, dès qu'on va être sur des coefs de vives eaux, on va avoir l'eau qui va pouvoir passer et remonter dans le plan d'eau. Donc qui va amener notamment des anguilles, des civelles, mais aussi des mulets, d'autres espèces marines qui peuvent passer une partie de leur vie en eau saumâtre. Il y a plusieurs enjeux, il y a des enjeux aussi au niveau des oiseaux, au niveau de la reproduction des oiseaux sur ces plans d'eau. Des enjeux piscicoles, des enjeux floristiques. Voilà, on est vraiment sur des milieux très importants. La Bretagne a vraiment une responsabilité importante pour la conservation de ces espèces et aussi l'amélioration du fonctionnement et de leur cycle de vie.
Voilà pour ce reportage tourné début septembre 2022 près d'Étel dans le Morbihan et qui relate les fortes tensions hydriques qu'a connues ce département cette année. Alors pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons aujourd'hui Hélène Anctil, ingénieure au service appui aux acteurs et mobilisation territoriale à la direction régionale Bretagne de l'Office français de la biodiversité. Hélène Anctil, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, comment réagissez-vous au reportage que l'on vient d'entendre ?
Eh bien, c'est un reportage qui est représentatif un peu de l'été qu'on vient de vivre en Bretagne et partout en France. Et le quotidien, il relate bien le quotidien de nos collègues qui sont un peu les yeux qu'on peut avoir sur le terrain pour rendre compte de l'état de sécheresse dans nos cours d'eau en France. Qui travaillent pour alimenter ce réseau de surveillance qu'on appelle le réseau ONDE. Pour Observatoire National des Étiages.
D'accord, donc ces agents de l'Office français de la biodiversité, ce sont quoi ? Ce sont des inspecteurs, quelque part, qui viennent vérifier un peu les cours d'eau sur les différents endroits en Bretagne ?
Tout à fait. Ces inspecteurs de l'environnement ont plusieurs missions. Les plus connues sont celles de police de l'environnement. Mais ils ont aussi des missions de connaissance des milieux naturels. Et également de mobilisation des citoyens et d'appui aux acteurs des territoires.
Alors sur ce reportage, on a donc suivi Pierre Manzi, qui est donc un des inspecteurs dans le Morbihan. Et les observations qu'il a effectuées là près du secteur d'Étel et Belz se sont déroulées en septembre et dans un contexte, on le sait, particulier, celui de la sécheresse, celui que vous appelez, vous, donc la crise sécheresse. Ça signifie quoi, crise sécheresse ? Il y a différents niveaux qui font qu'on déclenche un plan particulier ?
Oui, alors des plans existent au niveau de chaque département. Donc en Bretagne, c'est très récent pour le Finistère, puisque ça date de cette année même, avec des paliers successifs, donc vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Et ce qui est exceptionnel cette année, c'est que les quatre départements bretons ont atteint le niveau de crise sécheresse.
C'est jamais arrivé ?
C'est jamais arrivé jusque-là.
Ce qui a dû surprendre vos agents dans le Finistère notamment, parce que c'est un département qui n'est pas sujet généralement à de telles tensions.
Tout à fait. Alors le Finistère, c'était exceptionnel et ça a surpris aussi les habitants. Surpris les acteurs de l'eau et au-delà, en fait, même les citoyens n'auraient jamais imaginé qu'on puisse arriver dans des situations comme ça, y compris dans les monts d'arrêt, avec le recours à des citernes d'eau pour alimenter certaines communes.
Ouais, assez incroyable de constater ça. Et en même temps, on est clairement aujourd'hui dans des signes visibles du réchauffement climatique. Justement, est-ce que la Bretagne est désormais aussi impactée que d'autres régions de France ? Je pense notamment à des régions plus au sud qui connaissent chaque année aussi des tensions très importantes. Est-ce qu'aujourd'hui, la Bretagne a rejoint le cortège des départements avec de fortes tensions hydriques ?
La Bretagne est moins sujette aux sécheresses que d'autres régions du sud de la France, qui sont d'ailleurs mieux préparées. En revanche, elle est très vulnérable puisque il y a un dicton breton qui dit quand il pleut tous les jours, c'est trop, et quand il pleut tous les deux jours, ce n'est pas assez. On a besoin en fait d'une eau, une arrivée d'eau régulière par les précipitations, puisqu'il n'y a pas de réserve en eau souterraine dans les sols en Bretagne, ou très peu. Et donc on dépend en fait des précipitations. Et là, la caractéristique de cette sécheresse-là, c'est qu'on a eu une longue période sans réalimentation des eaux superficielles comme ça. Donc,
ouais, c'est ce que disait d'ailleurs Pierre Manzi aux abords du ruisseau, c'est que constater que le ruisseau était asséché, ça arrive, et c'est d'ailleurs normal, mais qu'il soit sec sur une période aussi longue, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel.
C'est exceptionnel, et donc ça perdure là pour l'entrée dans l'automne. Et d'une manière, c'est un sans précédent en termes de durée. On risque potentiellement d'avoir des assèques encore. Là, on a encore des assèques au mois de novembre sur certains cours d'eau.
Je rappelle que cette émission est enregistrée le 10 novembre 2022 et qu'en ce 10 novembre, effectivement, on connaît encore ces phénomènes de sécheresse sur les principaux cours d'eau. Pour autant, quand on parle de tension hydrique, de sécheresse, bon, on a compris, 2022 a été assez exceptionnel, mais est-ce que le phénomène se répète finalement assez clairement, peut-être avec moins d'intensité ces dernières années en Bretagne ?
On ne peut pas observer de tendance vraiment nette. Même si, par exemple, chez nos voisins des Pays de la Loire, on a une très claire aggravation des assèchements sur ces petits ruisseaux, parce que je précise encore, hein, ce réseau de suivi, c'est notre œil sur les petits ruisseaux, puisque les petits ruisseaux ne sont pas équipés de mesures, d'outils de mesure de débit.
Donc ça se fait visuellement, quoi.
Donc ça se fait visuellement. Et donc, ça représente un linéaire très important de cours d'eau qui n'est pas capté par les grosses stations de mesure de débit qu'on peut avoir au niveau national.
Pourtant, tout ce réseau de ruisseaux, il est extrêmement important dans l'écoulement des eaux vers les grandes rivières.
Tout à fait. Donc, quand on dit, par exemple, là, comme c'était le cas en Bretagne, que 40% des stations qu'on suit dans chaque département, donc il y a une trentaine par département, 40% de ces stations sont asséchées. Cela signifie qu'il y a un grand linéaire de cours d'eau en amont et peut-être même en aval de ces points ponctuels de cours d'eau qui sont asséchés.
Ouais, c'est assez impressionnant. Quels sont, on vient d'être dans le constat, dans ce qu'on a pu observer cette année 2022 en Bretagne sur les cours d'eau, mais quelles sont les conséquences finalement de telles tensions hydriques répétées ou intenses, comme cette année 2022, sur la biodiversité ?
À la baisse des débits, d'une part, on peut s'imaginer assez facilement qu'on perd l'habitat des poissons, par exemple, ou d'invertébrés aquatiques, enfin toute la vie aquatique, et qui dépend en tout cas à un moment donné de son cycle de vie du milieu aquatique. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez flagrant, y compris sur les cours d'eau qui gardent encore du débit. Certes, ils ont toujours un débit, mais la surface mouillée est bien inférieure. Donc on a aussi des déficits en oxygène, puisque ces eaux qui n'ont plus, on n'a plus une masse d'eau suffisante pour résister au réchauffement de l'eau par l'ensoleillement, notamment qui est en plus souvent important en période de sécheresse. Et cette température de l'eau augmente et provoque en fait une asphyxie du milieu, puisque la température est directement liée à la concentration d'oxygène dissous. En fait, c'est une relation physique directe entre ces deux paramètres-là. Donc, si on a moins d'oxygène dans les milieux, certaines espèces, c'est rédhibitoire pour certaines espèces, c'est-à-dire qu'elles vont soit fuir, si elles le peuvent, si le milieu est suffisamment préservé pour qu'elles puissent migrer, soit vers des zones en eau, en aval, encore fraîches, etc., elles peuvent s'en sortir. Et après, la conséquence directe, ça peut être l'asphyxie et la mort des mortalités de poissons ou d'autres organismes, comme des organismes très sensibles à l'oxygène, comme les écrevisses à pieds blancs.
Il n'y a que les poissons qui sont concernés par ces conséquences de tension hydrique et d'assèchement et de sécheresse ?
Non, non, il n'y a pas que les poissons, il y a tout, certains mammifères moins restreints au strict milieu aquatique. On a aussi tous les invertébrés aquatiques. Donc, je parle de l'écrevisse à pied blanc, notamment, qui est une espèce patrimoniale. Hein. Ce n'est pas à confondre avec les écrevisses américaines, les écrevisses rouges, mais des écrevisses patrimoniales qui sont encore, dont l'aire de répartition se réduit d'année en année et qui sont très sensibles, justement, à ces baisses d'oxygène et à des assèchements complets encore plus.
Donc c'est tout un milieu, tout un écosystème qui est menacé finalement par ces sécheresses répétées.
Alors il faut imaginer que la sèche dans le cours d'eau, on peut distinguer, il y a toujours une petite partie qui reste en eau sous la couche du cours d'eau, ce qu'on appelle le substrat du cours d'eau. Donc c'est ce qu'il y a au fond du lit, donc les cailloux, les graviers, les blocs, et qui constitue le matelas, ce qu'on appelle le matelas du lit du cours d'eau. Et donc, ce matelas peut rester en eau, mais quand la sécheresse se prolonge, en fait, ce matelas alluvial s'assèche également. Et on a la perte de tous les invertébrés qui avaient élu refuge dans ce dernier...
Dernier bastion, finalement.
Ce dernier bastion, voilà. Ce qu'on peut présager, on n'a pas encore la réponse, puisque la sécheresse est encore en cours, en quelque sorte. On n'en est pas complètement sorti, on est encore fragile. Ce serait potentiellement des retards à la migration. En effet, certains poissons qu'on appelle les poissons migrateurs, qui effectuent une partie de leur cycle de vie en mer et une partie en eau douce, comme le saumon, dont on a une forte responsabilité en Bretagne, puisqu'on a encore des saumons dans nos cours d'eau, ce qui n'est pas le cas partout en France, puisque son aire de répartition a beaucoup régressé ces dernières décennies. Et donc, il est possible que la sécheresse qui se prolonge retarde la migration de ces poissons vers leur zone de reproduction, justement dans les petits ruisseaux de l'amont des bassins.
Si on en venait un peu aux explications, est-ce que la forte sécheresse que l'on vient de connaître en 2022 suffit à expliquer ces tensions hydriques ? On parlait tout à l'heure de l'intervention humaine avec les rejets. Est-ce que les humains aussi, l'intervention humaine, peut expliquer aussi ces tensions hydriques, notamment dans son utilisation de l'eau?
En partie, oui, puisque en Bretagne, on est à peu près à 280 millions de mètres cubes d'eau qui sont prélevés pour différents usages. Le plus gros de ces usages, il nous concerne tous, puisqu'il s'agit de l'eau potable. Alors, l'eau potable ne sert pas qu'à boire, hein. Elle sert à plein d'autres usages.
Oui, en tout cas, l'eau potable ne vient pas de nulle part. Elle vient de ce réseau.
Elle vient tout à fait en Bretagne, elle vient aux trois quarts des cours d'eau. Voilà. Donc, de ce qu'on appelle les eaux superficielles. Et donc, on dépend complètement, directement, du débit qui transite par ces cours d'eau. Donc, il y a pas mal d'usines d'eau potable en Bretagne qui pompent directement dans le cours d'eau. Soit dans des barrages qui ont été construits, toujours en travers des cours d'eau.
En fait, on est passé aujourd'hui clairement de l'eau courante, celle qu'on voit courir sur nos rivières, nos ruisseaux, généralement en Bretagne, à de l'eau manquante finalement. Puisque on l'a compris, si on dépend en Bretagne beaucoup de l'eau de ces cours d'eau pour nos besoins quotidiens, aujourd'hui, on est vraiment dans un état de menace claire de remplir justement ces besoins qu'on a de boire, tout simplement.
On s'est rendu compte de notre fragilité. Donc, c'est une prise de conscience qu'il faut utiliser pour agir, en fait, hein, pour mener des actions pour le futur. Après, l'eau manquante, il faudrait savoir pour qui. Ne nous manque que ce dont on a besoin. Donc peut-être aussi on peut réduire nos besoins et puis aussi penser à préserver les milieux aquatiques qui sont un bien commun et qui, pour certains, quand les sécheresses sont prolongées, peuvent subir des dommages qui sont plutôt irréversibles. Hein. Si certaines zones, par exemple la truite, très en amont des bassins versants, sont complètement asséchées, les populations associées peuvent disparaître brutalement. C'est un phénomène qui est difficilement réversible Et donc, il faut vraiment qu'on ait une vigilance par rapport à ces milieux fragiles. Là où les citoyens sont peut-être moins sensibilisés, c'est à l'observation des milieux naturels. Donc, certains y sont sensibles, mais en vérité, peu se rendent compte vraiment de l'ampleur, en fait, des difficultés. On n'a pas forcément de réseau de personnes vigilantes, entre guillemets, pour observer ce qui se passe dans la nature et notamment dans les petites zones, les petits ruisseaux qui peuvent paraître peu importants, mais qui, en fait, quand cumulés, puisque ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, en linéaire cumulé, c'est à peu près 60, 70, 80% de tout linéaire de cours d'eau. Ce sont des tout petits ruisseaux. Et en fait, c'est eux notre capital hydrologique, puisque c'est à cet endroit-là que se constitue la ressource qu'on va retrouver plus en aval. Donc, c'est des cours d'eau qui sont parfois insignifiants et méconnus du grand public. Et donc, on a développé un réseau de surveillance participative qui s'inspire du réseau ONDE dont j'ai parlé et qui est mis en œuvre par les inspecteurs de l'environnement avec un protocole plusieurs mois chaque année. Et là, c'est un protocole participatif beaucoup plus souple, mais qui est sur le même modèle, qui est basé sur de l'observation simple d'écoulement dans les cours d'eau. Donc, tout le monde peut contribuer. Ça s'appelle le réseau Enquête d'eau.
Enquête d'eau, on trouve ça facilement sur
enquête-d'eau.fr. C'est un réseau Sentinelle, en fait, qui... Enfin, le réseau ONDE, lui, il reste tel qu'il est parce qu'il est destiné au temps long, à acquérir de la connaissance sur le temps long, justement pour observer les changements climatiques à l'échelle de ces petits ruisseaux où on a peu de mesures de quantification de l'eau qui s'écoule. Mais le but, c'est vraiment d'avoir des yeux partout. Donc, nous, on n'a pas les moyens de suivre
bien sûr.
Des longs linéaires. Donc là, ça complète, en fait. Les observatoires participatifs, comme ça, peuvent compléter la connaissance.
Et bien, donc, mobilisez-vous et passez aussi vos week-ends à aller observer les cours d'eau en Bretagne pour voir un peu où on en est et prendre conscience effectivement de notre consommation à tous au niveau de l'eau. C'est très précieux, l'eau, c'est la vie. Hélène Anctil, merci. Je rappelle que vous êtes ingénieure au service appui aux acteurs et mobilisation territoriale à la direction régionale Bretagne de l'Office français de la biodiversité. Vous pouvez également trouver de la documentation sur ce sujet sur le site de l'OFB, ofb.gouv.fr. Également sur le site de l'agence de l'eau, Loire-Bretagne, agence.eau-loire-bretagne.fr. Merci également à Emmanuel Gomila de Radio Balise, votre radio associative dans les pays de l'Orient, Quimperlé et Auray, pour la réalisation technique de cet entretien. À très vite pour un nouveau numéro de Biodiversité en Air. D'ici là, prenez soin de vous et de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.